Ce ne serait peut-être pas le type de message qu'on conseillerait à un nouveau prédicateur de faire, n'est-ce pas? D'habitude, on aime bien trois points, puis textuel, topic ou exposition. Mais là, c'était une série de passages ou de versets choisis pour nous encourager, en ces débuts d'année, à marcher pour le Seigneur, à garder le cap, les yeux fixés sur lui. La vie chrétienne, c'est comme un joyau, un diamant avec beaucoup de facettes, et ce n'est qu'une sélection de quelques facettes. Mais l'idée, en tout cas, c'est que notre vie reflète la présence du Seigneur Jésus en cette année 2014. Alors, ce sont des passages sélectionnés pour nous encourager à aller de l'avant en 2014. Et je crois que tous et chacun ici, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez aller de l'avant en 2014 et glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'était ambitieux puisqu'il y a 24 passages au moins ou thèmes qui ont été sélectionnés. On en a vu quelques-uns déjà dimanche dernier et on espère finir dimanche prochain du voulant. En fait, la première chose qui nous permet de gagner le cap avec le Seigneur, vous en doutez, c'est de lire la Bible, de prier régulièrement et d'annoncer l'Évangile. Alors, je ne vais pas revenir avec les illustrations, les versets, parce que ça a déjà été fait dimanche dernier. Vous pouvez regarder ou écouter plutôt le message sur le site du Voulant. S'attacher au Seigneur, selon Jean 15, s'attacher, demeurer en lui dans sa parole, dans son amour, et garder ses commandements et porter du fruit. Avoir les yeux fixés sur le Seigneur, Jésus, le chef et le rédempteur de notre foi, en rejetant tout fardeau. Être assoiffé de Dieu. Mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Avoir soif de sa présence, à l'exemple de l'apôtre Paul qui chérissait tellement et désirait tellement connaître encore plus et encore plus Dieu lui-même et la personne de Dieu. Aussi, dans notre vie, nous sommes parfois alourdis par des fardeaux. Ne pas oublier de lui remettre nos fardeaux, de nous alléger, d'aller à lui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Et de ne pas s'inquiéter. On sait qu'on a tous tendance à s'inquiéter. On peut même s'inquiéter, de trop s'inquiéter parfois. Beaucoup d'inquiétudes sont vaines, mais on a besoin d'apprendre à déposer au pied du Seigneur nos inquiétudes. Aussi, se consacrer régulièrement au Seigneur ou renouveler fréquemment notre consécration, comme a rappelé notre frère Pierre ce matin, dans la table du Seigneur, donner son corps en échange de ce que lui a fait pour nous, le salut parfait en Jésus-Christ. Et le dernier point, je pense qu'on avait vu ensemble, c'était apprendre à connaître la volonté de Dieu, à s'y soumettre. La parole de Dieu est largement notre conseillère en toutes choses, mais pour des décisions plus particulières, une révélation plus précise dans notre vie, nous avons besoin de nous soumettre, d'être particulièrement attentifs à la voix du Saint-Esprit, mais bien sûr de nous soumettre à la parole de Dieu, à tous les commandements du Seigneur et donc à la méditer. Et ça fait justement un lien, une transition avec le point que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Prions s'il vous plaît. Notre Père, nous te demandons ce matin de parler à nos cœurs, de te glorifier, de permettre que cette parole ait un effet dans nos vies et qu'ainsi Seigneur nous marchions dignement, les yeux fixés sur toi. Je te prie Père d'encourager mes frères et sœurs ce matin, de nous garder les uns les autres les yeux fixés sur toi. Et sur ta parole et sur ce que tu as à nous dire, qu'on puisse être enseignable et humble pour recevoir ce que tu as à nous dire ce matin, chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te donnons toute la gloire. Amen. Il y a un jeune frère de l'église, qui n'est plus là maintenant, mais marié, etc., aujourd'hui, qui un jour est entré dans mon bureau, qui m'a dit, comme ça, qu'il aimait l'église, qu'il voulait s'attacher à l'église. Et je l'ai regardé, j'ai dit... Alors, il me parlait de sa carrière professionnelle, etc. J'ai dit, oui, mais alors, quels sont tes plans pour ta vie chrétienne? Il m'a regardé, hein, c'était une question un peu bizarre, semble-t-il, pour lui. Oui, d'ici 2 ans, qu'est-ce que tu penses avoir fait pour le Seigneur, ou accompli, ou appris de la part du Seigneur? D'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il m'a regardé avec des yeux, mais alors, émerveillé quelque part, toutes grandes oreilles ouvertes. Et il m'a dit, mais on ne m'a jamais posé cette question. J'ai dit, oui, mais tu sais, tu me dis que tu as un plan de carrière. Alors, c'était bien établi. J'ai dit, mais Dieu a peut-être un plan de ta vie spirituelle, de ta formation spirituelle, parce que Dieu veut te bénir. Autant on passe des années à étudier, on passe des années à planifier nos vies, socialement, familialement parlant, etc. Mais Dieu veut aussi planifier nos vies. Il y a un homme qui, à l'âge de 14 ans, a écrit, en tant que jeune, 40 désirs ou objectifs qu'il voulait réaliser. Il était jeune chrétien, pour la gloire de Dieu, notamment d'être médecin, faire le tour du monde. Il a mis ça sur un bout de papier, 40 réalisations qu'il voulait accomplir dans sa vie. Savez-vous quoi? Il les a toutes faites. Je vais vous dire comment ne pas avoir d'objectif, ne pas réussir à avoir, d'avoir du succès et d'atteindre des objectifs, c'est de ne rien planifier. On est parfois un peu négligent dans notre façon de planifier notre vie. Est-ce que nous progressons dans notre vie de prière? Qui c'est qui nous évalue? C'est bien d'ailleurs les groupes de croissance qui sont installés dans l'église, deux par deux ou trois par trois, où on devient redevable les uns vers les autres dans notre vie personnelle, peut-être même face à nos péchés, nos tentations, nos lectures. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans nos vies, etc.? Parce que c'est une façon d'être redevable envers les autres. Est-ce que je suis en train de progresser devant Dieu? Quand on est marié, le conjoint est souvent le meilleur ami qui est là pour nous aider, avec lequel on partage bien des choses. Mais en tant que célibataire ou dans d'autres situations, on a besoin de se sentir redevable, certainement devant Dieu. Mais quelque part devant Dieu, on peut devenir subjectif et ne pas avoir peut-être ce que Dieu a pour nous et que d'autres, par leur expérience, ont découvert et pourraient peut-être nous défier de découvrir. Ça me fait penser à ce que Dieu disait à Josué. Et c'est l'objectif numéro un, je pense, qu'on devrait avoir dans nos vies. Même si, en méditant, en reméditant ce message, encore hier soir, ce matin, je me disais, mais quel est le but ultime du croyant? Quel est le but, l'objectif ultime du croyant, si ce n'est de se préparer à la rencontre de son Dieu? Il ne se prépare pas à être sauvé, parce que s'il est sauvé, il connaît Jésus-Christ, mais il se prépare à une grande rencontre, Dieu lui-même. Cette nuit, pour différentes raisons, j'ai du mal à dormir, et je parlais à mon père. Et il me semblait qu'il était tellement proche, mon père spirituel, je m'entends. Il dit, mais c'est tellement bon de savoir qu'on a un père, et qu'on va bientôt le découvrir, qu'on va être avec lui pour l'éternité. Et donc on doit se préparer à connaître Dieu. Et comment se préparer? Ben, la Bible dit très clairement à un serviteur qui s'appelait Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Recommande tes œuvres à l'Éternel, il agira, dit le proverbe. Nous avons besoin d'apprendre à nous confier. Peut-être que vous connaissez cette anecdote ou illustration que j'utilise assez souvent. Personnellement, j'aime bien dessiner pour faire des schémas, un peu schématiser les concepts ou les idées. Et vous prenez un rond, vous mettez une Bible au centre et vous faites comme des pointes de tarte avec tout ce qui est peut-être les compartiments de votre vie ou des choses peut-être plus délicates que vous vivez. En ce moment, vous dites, mais qu'est-ce que dit la parole à ce sujet? Quelle est la réponse de Dieu à ce sujet? On peut prier Dieu, le Saint-Esprit peut nous conduire, mais on peut étudier la parole et souvent, comme disait encore Luther, bien étudier, c'est bien prier, c'est bien étudier. Lié à la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous communique ou nous imprègne sur notre cœur la vérité appropriée. Nous avons besoin d'être dirigés et nous avons besoin de cette boussole objective pour nous dire vraiment si on est dans la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Ça n'empêche pas d'avoir des frères et des sœurs autour de nous qui nous conseillent, qui nous aident. Et la Bible dit notamment que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Mais nous avons besoin d'avoir des objectifs, à être prêts à avoir un plan de carrière. Je ne sais pas vous, je chéris particulièrement le passage dans le psaume 19 qui décrit la parole de Dieu. C'est un passage très connu au verset 8 et 9. Alors ça pourrait être l'objet évidemment de tout un message tellement c'est profond ce que dit la Bible au sujet de ce qu'elle est finalement. La Bible dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ça ne vous arrive jamais d'être dans des moments un peu de confusion ou de choses qui ne sont pas claires pour votre vie, votre emploi du temps ou des décisions à prendre? Comment faire? Et c'est, on peut prier, on peut s'attendre à Dieu, mais tôt ou tard, si on lit fidèlement la parole de Dieu, on a les réponses du Seigneur. Dieu est fidèle à nous parler par sa parole. Si nous chérissons et blottissons cette parole, il aura à cœur de nous parler selon sa volonté. Alors j'aimerais donner un défi à chacun. Vous êtes un jeune croyant, mais suivrez un cours. On a des cours de croissance qu'appelle Maître et son disciple. Vous êtes un jeune croyant, vous voulez progresser, aller plus loin. Il y a des cours Emmaüs, j'ai une vingtaine de cours. On va d'ailleurs donner d'autres cours ici. On a des cours pour responsables d'église, FBA, vous connaissez. Il y a toutes sortes de moyens qui sont à notre disposition, de lecture, de livres, de moyens d'étudier la Bible. Comme a dit un chrétien, ce serait triste un jour d'arriver au ciel, se promener au ciel, et puis de rencontrer Ézéchiel. Et de le saluer, bonjour, oui, bonjour. Tu sais comment je m'appelle? Non, non, non. Ah bon? Tu ne me connais pas? Ben, je m'appelle Ézéchiel. Ah oui, Ézéchiel, ça me dit quelque chose, ça. Puis Esdras, oui, j'ai vaguement entendu parler de toi. Néhémie aussi, non? Ce serait triste d'entrer au ciel et de savoir si peu de choses sur la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont été prêts à mourir pour ce livre. Les Lollards, notamment en Angleterre, sont morts martyrs avec la Bible suspendue à leur cou. Parce qu'ils étaient prêts à mourir à cause de leur foi, basée sur la parole de Dieu. Et nous qui avons cette grande liberté d'avoir la parole de Dieu, d'avoir toutes sortes de Bibles chez nous. On a des instruments, des logiciels qui nous permettent d'étudier la vie comme Bible Online ou autre, des choses extraordinaires. Est-ce que nous prenons le temps d'étudier la parole, d'être des étudiants avides de la parole de Dieu? Je me souviens quand j'étais à l'école biblique, il y avait un jeune homme, pas trop instruit, on va le dire comme cela, mais j'ai rarement vu un jeune homme qui était si attaché à la parole de Dieu. Et qui savait si bien discerner et comprendre la parole de Dieu. Tellement la communion dans le Seigneur l'imprégnait de la présence de Dieu et de cette capacité de comprendre les Écritures et de nourrir sa foi. Nous sommes tous appelés à être des étudiants de Dieu. Et le diplôme qui nous sera réservé, ou qui est déjà réservé sur terre, c'est la joie du bénéfice que nous recevons en lisant, méditant la parole de Dieu. Un danger, ce serait d'intellectualiser la parole de Dieu. Je remarque ça parfois, c'est une tendance. On peut intellectualiser, on peut dire j'ai des connaissances. Vous savez, dans la pensée grecque, l'intelligence, c'est le savoir. Mais dans la pensée hébraïque, c'est le savoir-faire. La sagesse, c'est le savoir-faire. Comment appliquer la parole de Dieu? Dans notre vie moderne aujourd'hui et européenne, on pense que la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la connaissance. Mais la vraie pensée de Dieu, la sagesse, c'est le savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est le deuxième point que j'aimerais souligner avec vous ce matin. Jacques nous rappelle, chapitre 1, versets 22 à 24, vous pouvez lire dans vos Bibles, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Vous avez remarqué combien des fois on raisonne devant Dieu, on raisonne devant les gens. Malheureusement, pendant mes vacances, j'ai dû aller à un enterrement. Et d'un cousin, donc c'était un contact à nouveau avec la famille, etc. Mais il y a sa fille, c'est un homme assez convivial, une forte personnalité qui a marqué vraiment sa famille, et enfants, petits-enfants, etc., et gendres, et plusieurs ont témoigné, et sa fille a témoigné avec beaucoup d'amour de son papa. Mais ce qui m'a étonné dans ce témoignage, qu'elle a donné aussi quelques travers de son papa. Et notamment, c'était assez émouvant la façon dont elle l'a dit, mais elle a dit, si bien dit, mon papa avait tellement une mauvaise foi, il voulait toujours avoir raison. Et je pense que des fois dans nos vies, on veut tellement avoir raison, même devant Dieu. Vous vous rendez compte? On pense que déjà on sait ce que Dieu doit faire pour nous, ou ce qu'il veut pour nous. Et donc on dit à Dieu déjà, même si on ne le dit pas comme ça, On dit à Dieu ce qu'il doit nous communiquer ou ce qu'on voudrait bien qu'il fasse pour nous. Mais est-ce que nous sommes soumis à la parole de Dieu ou est-ce que nous sommes en train de nous tromper par de faux raisonnements? C'est subtil le cœur de l'homme. Hein, je ne fais pas le vôtre, mais le cœur de l'homme, c'est subtil. Comment on peut essayer pour échapper à ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, de raisonner et de ne pas se baser vraiment sur ce que Dieu dit et ne pas ajouter notre propre pensée. Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était, quel il était. Vous savez, une preuve du fait que nous lisons la Bible et que nous allons lire la Bible en 2014, c'est qu'en décembre 2014, on devrait voir dans nos cœurs, les uns les autres, une transformation de la part du Seigneur. Parce que la Bible dit ici que quand on se regarde dans le miroir, eh bien, si on se laisse regarder tel que Dieu nous voit par cette parole, alors on est transformé. Parce qu'on ne veut pas rester tel que la parole nous dit qu'on est. On reconnaît qu'on est pécheur, on reconnaît nos faiblesses et on a envie d'être transformé. Et notre défi, c'est de ressembler à Jésus. Ce n'est pas de se comparer aux autres, c'est de ressembler à Jésus. Et en voulant ressembler à Jésus, on est transformé par sa grâce, hein, par sa grâce et miséricorde. Mais est-ce que dans ma vie, en 2014, des choses vont changer? Est-ce que ceux qui me fréquentent vont dire « il a changé dans ce domaine ». Nous sommes tous enclins à des faiblesses. La Bible dit que celui qui debout ne prenne garde ne pas tomber. Nous avons tous des tendances, des entêtements, des orgueils, des égoïsmes, des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et est-ce que nous allons laisser cette parole nous transformer? Jésus veut purifier nos cœurs et nos pensées. Et c'est par cette parole qu'il va le faire. Donc, nous sommes invités ce matin à réfléchir que cette parole nous transforme réellement durant l'année et ainsi que nous puissions glorifier le Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, que cette parole nous éclaire et puis quand elle nous montre le chemin, qu'on y marche. On a la crainte de désobéir. Heureusement qu'on a un Dieu de miséricorde et toute grâce. On emprunte des chemins et on se dit, et si je me suis trompé? Mais Dieu est miséricordieux. Et même dans ce cas-là, on peut croire que dans sa souveraineté, Dieu prend soin de nous, parce que si on ne s'entête pas, on va l'écouter et il va nous parler. Et puis, j'ai souligné aussi un autre point, c'est que nous avons les 10 commandements. Je pense que c'est clair, les 10 commandements. Il y a des centaines de commandements d'or de la part du Seigneur dans les Écritures. Charles Studd, vous savez, un de mes missionnaires préférés, disait que tous les matins, il soulignait dans sa parole tous les commandements du Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament, les uns après les autres. Et dans la journée, il essayait de s'y soumettre de tout son cœur pour montrer que oui, la soumission à la parole est une démonstration de notre amour envers Dieu. La soumission est quelque chose qui plaît à Dieu. La soumission se voit dans les petites choses comme dans les grandes choses. Mais si nous ne sommes pas capables de nous soumettre à la parole de Dieu, comment allons-nous nous soumettre les uns aux autres? Comment nous allons nous soumettre à Dieu lui-même? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Déjà là, c'est le résumé de toute la vie dont on a besoin en 2014. Mais quel défi, frères et sœurs, n'est-ce pas, d'apprendre à mettre la parole en pratique, de ne pas raisonner, de se laisser transformer et de s'y soumettre telle qu'elle est écrite, sans y ajouter absolument rien. Un troisième point que j'aimerais souligner avec vous, c'est plus ou moins chronologiquement, logique, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est croire en un Dieu de l'impossible. Ça vous est jamais arrivé que Dieu vous ait montré quelque chose et puis vous traversez un tunnel et vous dites « Oh là là, mais est-ce que je ne fais pas fausse route finalement ? Est-ce que ce que Dieu m'a montré dans la lumière, est-ce que c'est toujours vrai pour moi dans ma vie ? Ou est-ce que le doute s'installe et les choses font que je vacille de part et d'autre, peut-être par manque de foi et le doute ? Mais la première chose que Dieu a dit dans les Écritures, notamment à propos des aux disciples, lorsque le jeune homme est parti tout triste, parce qu'il préférait ses richesses à tout simplement avoir la foi en Jésus et à se donner en Jésus, au sujet du salut, Jésus les regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il y a des gens qui ont prié pour des dizaines d'années, pour des conjoints, pour des amis, et qui ont dû attendre de voir le salut s'accomplir dans leur vie. Nous devons persévérer à croire que Dieu est de l'impossible. Le salut, c'est impossible. Personne ne peut se sauver par lui-même. C'est un acte de Dieu, certes, en échange de la foi de la personne qui accepte Jésus, éclairée par la grâce de Dieu, et c'est une grâce d'être éclairée, mais il n'empêche pas moins que c'est Dieu seul qui sauve. Personne ne peut se sauver, personne ne peut se transformer. Le salut, c'est Dieu qui l'accomplit. Dieu accomplit le salut, et donc nous devons croire que là, même pour les gens pour qui nous prions peut-être depuis des années, oui, c'est encore impossible qu'ils se sauvent, mais Dieu peut les sauver, et nous devons persévérer. Et une deuxième chose aussi, c'est que nous devons croire à l'impossible dans nos propres vies. Ça a commencé par le salut, c'est Dieu qui nous a sauvés, et quand on est sauvé, on sait après que c'était vraiment impossible de se sauver par soi-même. Mais ensuite, c'est la vie par la foi qui continue, par un Dieu tout souverain, tout puissant, qui est le Dieu de l'impossible. C'est vivre par la foi, c'est de traverser des montagnes, c'est de voir des tunnels se percer dans la montagne, là même où on pense qu'il y a un impasse total, Dieu nous délivre, Dieu nous amène à gravir un sommet, à nous faire voir les choses différemment, là même où notre raisonnement, notre foi même peut-être, nos sentiments, notre volonté, notre intelligence est dans un impasse, Dieu est encore celui qui peut tout faire. Il est omnipotent. J'aime beaucoup ce verset en Éphésiens 3:20 qui dit « Aura celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alors parfois on nous taquine, ma femme et moi, je dis « Oh, vous avez 6 enfants, c'est ça que vous aviez planifié ?» Et moi j'ai toujours dit « Bon, on avait planifié un certain nombre, mais Dieu a répondu au-delà de tout ce qu'on a pensé ou imaginé. » En tout cas dans mon cas c'était ça. Vous voyez, mais bon, c'est une petite anecdote, mais Dieu peut faire des choses extraordinaires. Hudson Taylor est parti en Chine, il avait déjà pleuré et prié, intercédé sur la carte de Chine pour que Dieu sauve les Chinois. Il a réussi à se faire chinois parmi les Chinois et avoir un réveil extraordinaire. Alors que il n'y avait aucune mission qui envoyait les missionnaires en Chine. Pourquoi ? Parce qu'il a eu la foi dans le Dieu de l'impossible. La même où nous sommes en train d'être angoissés, d'être coincés, de ne plus savoir où bouger, c'est là où Dieu intervient, parce que Dieu reste le Dieu de l'impossible. Et qu'est-ce que nous faisons lorsqu'il intervient ? Nous le glorifions, parce que nous lui rendons toute la gloire, parce que c'est vraiment lui seul qui est intervenu dans sa grâce et miséricorde. Un quatrième point, qui est peut-être lié avec le précédent, c'est d'apprendre à cultiver un esprit de victoire. On a un petit cantique qui dit « au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu ». C'est vrai que quand on baisse la tête, on regarde sur la terre, c'est parfois bien triste, mais si on lève les yeux vers le ciel, c'est déjà plus réjouissant. Mais parfois, le ciel s'assombrit. Il y a des nuages, il y a des orages, il y a des inondations, comme il y a en ce moment en Bretagne, les gens sont affectés, il y a des épreuves. Comment réagissons-nous face aux épreuves ? Comment réagissons-nous face à la tentation ? Comment réagissons-nous face aux attaques de Satan ? Nous pouvons donner gloire à Dieu dans nos épreuves ou nous pouvons baisser les bras, n'est-ce pas ? Vous êtes comme moi ? Nous pouvons ou vouloir combattre et animer encore de ce petit cantique dans nos cœurs qui dit « Combattez encore, dit Jésus à tous ». Vous savez, des fois dans la vie chrétienne, enfin je ne sais pas vous, vous n'avez pas envie de vous reposer. Ou peut-être de penser, bon ben là, s'il y avait l'enlèvement de l'Église, ça résoudrait pas mal de mes difficultés. Hein, si le Seigneur pouvait revenir aujourd'hui, là, ce serait super. Et puis je serais au ciel avec lui, ce serait merveilleux, plus de larmes, plus de dettes, plus de factures, plus de douleurs, plus de problèmes de santé, plus de péchés, plus de tentations, plus de diables. Mais dans cette vie, Dieu nous dit ceci, Et vous savez, dans les messages que Dieu donne en Apocalypse, les six premières églises, sept églises, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu désire qu'on ait un esprit de victoire. Pourquoi ? Parce que Jésus est vainqueur. En tant que chrétien, on peut avoir des défaites, on peut chuter, on peut tomber, on peut se relever, mais on ne peut pas rester constamment dans la défaite, c'est impossible. Parce que Jésus est vainqueur. Sinon, on fait Dieu menteur. La foi doit être victorieuse. La Bible dit, et pour moi, c'est une source d'encouragement, ce passage extraordinaire, je pense pour vous aussi, en Romains chapitre 8, versets 37 à 39, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors, il faudrait lire tout le contexte, n'est-ce pas, de Romains chapitre 8, où Paul dit que... Il peut être attaqué, n'est-ce pas, de différentes sortes, mais qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est pour nous. Et il dit, car j'ai l'assurance, et ça, c'est un verset à souligner dans nos Bibles, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les nominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. À un moment donné, je ne sais pas si vous avez été informé ou si vous avez su, dans les pays de l'Est communistes, donc en URSS, à un moment donné, les chrétiens étaient particulièrement persécutés de façon terrible. Et on prenait des chrétiens et pour leur faire perdre la foi, on les amenait dans des asiles psychiatriques hein, avec toutes sortes de traitements psychiatriques, médicamenteux aussi, etc., mais on essayait de leur faire perdre la raison. Et je pense qu'il y a des croyants dans ces asiles-là qui ont perdu la raison, qui n'ont plus su quoi dire, défendre leur foi. On leur a fait dire tout ce qu'ils voulaient qu'ils disent. Quelle est la réponse de Dieu pour nous, les enfants de Dieu, dans de telles situations ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, alors c'est les puissances, c'est les démons, hein, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est merveilleux cela. Nous avons cette assurance que si nous sommes en Christ, nous restons en Christ pour toujours. Sauvés pour toujours, en Christ pour l'éternité. C'est une assurance extraordinaire. Peu importe ce qui peut nous arriver. Je suis allé aller voir une vieille dame là qui m'a vraiment touché, la belle-sœur de ma belle-mère, enfin, oubliez les termes là, une personne que moi j'ai connue en pleine forme, qui gâtait mes enfants des fois à Noël, et je suis allé la voir dans une maison de retraite, 34 kilos, que j'avais vue pleine de vie, desséchée, et je me suis dit, mais si ça t'arrivait que tu sois comme ça, sans pouvoir parler, sans presque pas voir. Et franchement, je crois qu'elle en avait marre de vivre. Et je me dis, mais si le croyant arrive dans un tel état, et ça peut arriver à chacun d'entre nous, enfin avec l'âge, hein, si Dieu le veut comme ça, ben, j'ai l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Il n'y a aucune situation qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous garde, il nous tient, et il nous aime, et c'est pour toujours son contrat. Donc, ayons cet esprit de victoire et ne donnons pas gloire à l'ennemi ou ne regardons pas aux épreuves, même si parfois, dans le brisement que nous avons à la croix, nous sommes vaincus et brisés face au Seigneur Jésus. Mais c'est parfois et c'est souvent là, quand nous sommes brisés et vaincus, que nous sommes vainqueurs. L'orgueil nous empêche de voir Dieu. Et il nous empêche d'être vainqueurs. Mais c'est quand nous désespérons de nous-mêmes, de nos propres efforts, que nous sommes remplis du Seigneur et de sa victoire. Et ça demande l'humilité. Reconnaissons que nous avons besoin de nous humilier devant Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. La victoire appartient à celui qui s'humilie devant Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, un autre point que j'aimerais souligner avec vous, qui est lié avec celui-ci, c'est d'être confiant dans le Seigneur, confiant dans son amour, puis être optimiste face à l'avenir. Alors, ça fait deux dimanches que je donne ce verset, je le répète, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Nous oublions que la première chose que Dieu a envie de faire pour nous, ses enfants, c'est de nous bénir. Il n'a qu'envie que d'une seule chose, c'est d'être pleinement présent dans nos vies et de nous combler de toute sa présence, de ses bienfaits. Alors, c'est peut-être pas de nous enrichir matériellement ou de combler des rêves ou des succès personnels, mais seulement de nous bénir de sa présence. Nous serons un jour jugés et récompensés en fonction de notre vie spirituelle. Notre gloire dans le ciel sera proportionnelle à ce que nous aurons vécu dans le Seigneur sur terre. Les étoiles brillent dans le ciel d'un éclat différent de notre. Et en Daniel 12, il est écrit que ceux qui ressusciteront brilleront comme des étoiles dans le ciel. Alors, sans aller en Corinthiens 15, différents passages qui montrent cela, mais il y aura des récompenses proportionnelles, en tout cas, aux enfants de Dieu. Mais sachez une chose. Je ne sais pas combien de cadeaux vous avez reçus à Noël. Peut-être vous en avez partagé certains. Mais j'aimerais vous dire le cadeau de Dieu ce matin. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il n'y a rien que Dieu n'ait pas fait pour nous, chacun de nous. Il nous connaît en tant qu'être humain, il sait exactement ce dont nous avons besoin. Et en Christ, dans ce passage, Éphésiens chapitre 1, nous avons été élus dès la fondation du monde, nous avons été prédestinés, nous avons été rachetés, nous avons été adoptés, nous avons été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses, nous avons été scellés du Saint-Esprit, mais toutes ces bénédictions, ces richesses, faisons-les valoir durant cette année. Il y a un homme, un jour, qu'on a trouvé clochard dans la rue. Aux États-Unis, c'est une histoire vraie, hein? Clochard dans la rue. Un homme pauvre, alors qu'il était millionnaire sans le savoir. Il ne savait pas qu'il était millionnaire, qu'il avait hérité d'une richesse incroyable, alors qu'il vivait dans la pauvreté. Et parfois, nous, les enfants de Dieu, au lieu de nous revêtir des beaux costumes, enfin, façon de parler, de Jésus, nous venons à l'église en haillons, des pauvres démunis. Nous nous présentons devant Dieu comme des gens qui réclament, des pauvres, qu'il faut absolument aider. Mais Dieu nous a déjà enrichis. Est-ce que nous allons vivre de sa richesse et être heureux de sa richesse? Frères et sœurs, goûtons à sa richesse. Le Seigneur est bon. Goûtons à ses bienfaits. Réjouissons-nous dans sa présence, de ses bontés, et faisons de ses délices, n'est-ce pas, de l'Éternel, nos délices, afin de le glorifier. Mais pour cela, soyons humbles pour être remplis de son esprit. Ah, j'ai un autre verset que j'aimerais, dans ce même point, vous donner rapidement. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Alors évidemment, dans le contexte ici, il s'agit de la bénédiction de Dieu sur Israël, après avoir vécu bien des éloignements de Dieu et donc subissant des châtiments, Dieu les restaure. Il crée dans le désert un fleuve d'eau, un oasis pour son peuple. Et dans nos déserts de la vie, croyons que là même où on pourrait être désespéré, Dieu a un oasis. Allez chercher durant cette année 2014 les oasis que Dieu a déjà préparés pour vous. Les palmiers avec un plan d'eau calme dans le désert, on comprend ce que c'est qu'un oasis, et c'est pas une illusion, c'est pas un mirage, c'est une réalité. Dieu va créer un chemin dans le désert, pour là où vous êtes dans le désert. Nous avons chacun de nous des déserts, plus ou moins vastes, plus ou moins longs à traverser. Alors il y a le, comment, je sais plus comment on appelle ça, la course de Dakar, là, comment on l'appelle, hein, Ride de Dakar. Alors ils ont allongé encore plus, j'ai écouté ça hier à tout pour le sport, là, j'aime bien ça, à 8h10. Et ils ont rallongé les courses, parce que les gens, ils aiment ça, traverser le désert, puis les difficultés. Moi, j'aime pas traverser les déserts, mais Dieu sait, pour chacun de nous, qu'il permet des déserts. Avec des obstacles plus ou moins difficiles. Mais Dieu sait qu'il y a un fleuve d'eau vive qui peut couler de son sein, car Dieu nous aime. Bon, j'ajoute un dernier point, sinon j'arriverai pas à terminer dimanche prochain. Vous êtes d'accord? On a commencé un peu plus tard le culte. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas après. Hein. Vous souriez? Bon, c'est bon signe pour moi, alors là. Un dernier point qui va peut-être un peu dans le même sens. Bon, ce n'est pas le point sur lequel je voudrais aimer terminer, mais bon, ce n'est pas grave. Expérimenter le Dieu de toute délivrance. Regardez avec moi Romains chapitre 6. Alors, c'est peut-être un rappel, c'est certainement un rappel, ou j'espère que vous lisez Romains 6, 7, 8, qui parle de notre, quelque part, sanctification, hein, en Christ. Et puis, Paul dit ceci, et je crois que c'est bon de se le rappeler en ce début d'année. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est un faux raisonnement, évidemment. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La Bible dit qu'on est mort au péché. Un jour, j'ai un frère diacre dans mon église à Québec qui est venu me voir et me dit « Mes condoléances, monsieur Viguier ». Je dis, ah bon, il me dit, oui, vous êtes mort au péché. Ah, je dis, ouf. Bon, comme j'habitais loin de chez mes parents, je me posais des questions. Mais ignorez-vous, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons besoin, frères et sœurs, de lire et de relire et de méditer Romains chapitre 6, 7, 8 dans nos vies. Prenez ces trois chapitres. Prenez une semaine et lisez ces trois chapitres par jour. Imprégnons-nous de ces grandes vérités au sujet de notre identification en Christ. Une des grandes vérités qu'on doit enseigner à ceux qui vont être baptisés par immersion, n'est-ce pas, c'est le fait que le baptême, c'est le symbole de notre identification en Christ. On plonge la personne complètement dans l'eau. Ça signifie qu'elle est immergée en la mort, identifiée à la mort de Jésus-Christ. Elle sort complètement de l'eau. Elle s'identifie à la résurrection de Jésus-Christ. Donc la personne qui est complètement dans l'eau, enfoncée dans l'eau, c'est le symbole qu'elle est identifiée à la mort de Jésus. On est complètement identifié à la mort de Jésus. Il n'y a pas un seul péché dans notre vie qui ne peut pas connaître une délivrance parce qu'on est mort au péché avec Jésus-Christ à la croix. Mais c'est une vérité qu'on entend, mais qu'on a peut-être du mal à saisir par la foi. Ça ne peut saisir, je pense, que par la foi. C'est une révélation spirituelle que notre identification en Christ. Alors, dans les premiers versets, je ne serai pas long, je vous promets. Dans les premiers versets, il est écrit, nous avons donc été, verset 4, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Baptême en sa mort, qui est la crucifixion. Puis il y a un peu plus loin, au verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je suis mort au péché, mais je suis aussi identifié à sa résurrection. Et c'est par la puissance de sa résurrection que je suis mort au péché. Bon, c'est un peu l'explication brève théologique, excusez. Mais au verset 7, c'est écrit, car celui qui est mort est libre du péché. À un moment donné, dans nos vies, nous pouvons laisser comme un fil de couture autour de poignets, juste un fil nous encercler, c'est facile à faire ça. Imaginez que vous faites deux tours, c'est peut-être un peu plus difficile. Trois tours, c'est encore à la rigolade. Bon, Samson, lui, il n'y aurait pas eu de problème, tant qu'il avait les cheveux longs. Mais on met 10 tours d'un tout petit fil, à un moment donné, la personne, elle n'est plus libre. L'ennemi veut créer en nous pensée, sentiment, action, intelligence de faire telle ou telle chose qui n'est peut-être pas dans le plan de Dieu. Le mot péché, dans le grec, amartia, c'est rater la cible. Quand nous péchons, nous ratons la volonté de Dieu. Nous ratons Dieu. Et je crois que c'est subtil la façon avec laquelle, parce que nous sommes, quoi, des pécheurs. Même en 2014, malheureusement, hein, on va être encore des pécheurs, on aura encore affaire à nos péchés. Mais croyons à la toute délivrance du péché, parce que nous sommes morts en Christ et ressuscités avec lui. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on n'a pas quelque chose à, comment dire, à exercer dans notre vie, du point de vue discipline spirituelle. Il est écrit, verset 12, et je termine avec cela, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il y a beaucoup de choses qui peuvent passer dans nos yeux. La télévision, il faut vraiment faire attention, et bien d'autres choses dans nos oreilles, tout ce qu'on peut écouter, tout ce qu'on peut voir de nos yeux, etc. Dans ce monde aujourd'hui, beaucoup de choses sont basées sur la convoitise. Beaucoup, beaucoup de choses. L'ennemi attise la convoitise au travers de beaucoup de choses mondaines. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il faudrait parler cela pendant des heures. Nous étions, avant de nous convertir, des instruments d'injustice devant Dieu, parce que nous étions dans la mort par nos péchés. Et aujourd'hui, Dieu se glorifie par la justice qu'il accomplit dans nos vies, parce que nous nous sommes séparés du péché pour accomplir les œuvres préparées d'avance à la gloire de Dieu. Autant nous étions vivants pour le péché, mais morts devant Dieu, maintenant nous sommes morts au péché, mais vivants pour Dieu. Alors c'est un beau défi pour l'année 2014. Et j'aimerais terminer, vraiment. Bon, vous me connaissez un petit peu. Aucune tentation ne vous est survenue. Vous connaissez ce passage par cœur ? Aucune tentation, d'ailleurs le mot grec ici pourrait être traduit par épreuve. Aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir. Il n'y a pas une tentation où Dieu n'a pas une porte de secours pour nous. Nous avons besoin certainement des uns des autres aussi. Il y a parfois des péchés subtils, des tentations subtiles. L'ennemi est très subtil pour nous attaquer dans nos vies chrétiennes. Nous avons besoin de confesser nos péchés les uns aux autres. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres et de croire en ce Dieu de toute délivrance. La Bible dit à Matthieu, le Notre Père, Jésus nous a appris cette prière. Et il a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, ça veut dire, ne nous laisse pas, ne nous livre pas à la tentation. À partir du moment où le croyant se livre à quelque chose, Dieu peut le laisser aller. Vous savez, Dieu peut le laisser aller jusqu'au bout de sa tentation. C'est pour ça que nous devons veiller. Lorsque la tentation frappe à notre porte, de ne pas la laisser s'imprégner dans nos vies pour la rejeter avec foi. Et nous avons parfois besoin de prières les uns avec les autres. Alors, peut-être je dois reprendre les points pour pas que vous soyez dans la confusion en partant, hein. Mais étudier la Bible avec des objectifs, planifier ses lectures, la mettre en pratique, croire au Dieu de l'impossible, cultiver un esprit de victoire, un esprit d'optimisme face à l'avenir parce qu'on a confiance en Dieu, expérimenter ce Dieu de toute délivrance. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année 2014, qui réjouisse vos cœurs de sa présence, vous fasse du bien en foyer, en famille, dans vos vies, dans vos cœurs, pour les étudiants, dans vos études avec succès, et que la grâce du Seigneur Jésus soit sur chacun de nous. Amen.